Et le journal est présenté donc par vous, Clarence Rodriguez. Bonsoir à nouveau.
Bonsoir à tous. Nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 26 cas de fièvre hémorragique ont été détectés dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. 20 personnes sont décédées. Les autorités sanitaires congolaises sont sur le pied de guerre. Dans ce journal, nous entendrons Tariq Zarabdi, l'un des porte-parole de l'OMS à Genève. La Chine dans la tourmente. Pékin doit faire face à un nouveau scandale sur le fonctionnement de son industrie pharmaceutique. Il s'agit cette fois d'une molécule utilisée pour traiter l'hypertension artérielle qui a dû être retirée du marché en raison des risques de cancer. Nous en parlerons avec Sébastien Berriot dans un instant. 42 migrants soudanais de l'Aquarius accueillis à Lille ont obtenu le statut de réfugiés. Cette décision de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, leur permettra d'obtenir une carte de résident pour 10 ans, une procédure administrative qui s'est effectuée en un temps record. Pierre-Henri, directeur de France Terre d'Asile, nous dira pourquoi. Chassé croisé des vacanciers, c'est sans doute le week-end le plus chargé de l'année, mais aussi le plus chaud. Christophe Vincent, notre correspondant à Lyon, nous emmènera sur l'autoroute A7 à la rencontre d'automobilistes qui ont pris leur disposition pour affronter la chaleur. Une épidémie d'Ebola chasse l'autre en République démocratique du Congo. 26 cas de fièvre hémorragique ont été détectés dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. 20 personnes sont décédées. C'est la 10e épidémie en RDC depuis la découverte de ce virus en 1976. La dernière remonte à seulement quelques mois dans une autre province située à 2500 km. Elle avait été éradiquée grâce à des mesures de confinement mises en place au niveau local et à une campagne de vaccination. Tout est donc à recommencer. Mais l'OMS craint que cette fois, la situation sécuritaire ne complique les opérations pour enrayer la propagation du virus. Valérie Crova a joint l'un des porte-parole de l'OMS à Genève, Tariq Jazarevitch.
À chaque fois qu'il y a une épidémie d'Ebola, c'est avec inquiétude qu'on approche ce problème parce que quand même c'est une maladie qui tue plus de 50% de ceux qui sont infectés et qui nécessite une réponse qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ici, on est inquiété encore plus, si vous voulez, parce que on est dans un coin de la République démocratique du Congo où il y a beaucoup d'instabilité, où il y a beaucoup d'insécurité, ce qui va rendre notre tâche encore plus difficile.
Il faut expliquer que la région du Nord Kivu, c'est une zone de conflit en RDC. Hein.
Effectivement, c'est une zone qui est placée à niveau 4 par le système des Nations Unies. Donc, on va effectivement devoir travailler beaucoup avec la mission de maintien de la paix en Congo pour s'assurer que nos opérations se fassent de manière sécurisée. Évidemment, si on doit bouger avec les véhicules blindés, si on doit avoir des escortes, ça va nous ralentir dans les opérations. Quand on parle des opérations, donc il faut vraiment dire ce que c'est. Il faut qu'on amène des équipes, des épidémiologistes sur place. Et on est déjà en train de déployer les premières équipes pour qu'ils comprennent vraiment l'étendue de cette épidémie, pouvoir tracer un peu le parcours du virus, de pouvoir identifier tous ceux, les personnes qui auraient pu être exposées. Il faut aussi identifier ceux qui sont déjà malades. Et donc, ce travail d'investigation épidémiologique nécessiterait sans doute des déplacements dans les villages voisinants. Et ça, évidemment, le côté sécurité peut jouer un rôle.
Et cet après-midi, le ministère de la Santé congolais a fait savoir qu'il allait procéder à une campagne de vaccination dès la semaine prochaine. Le Yémen, notre pays menacé d'épidémie, est décrit par l'ONU comme la pire crise humanitaire au monde. Il est menacé par une troisième vague de choléra. Plus d'un million de cas touchés par l'épidémie ont été répertoriés, dont 2200 de décès depuis le début de l'éclatement du conflit entre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, et les forces gouvernementales, soutenues par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Et face à la situation catastrophique, l'OMS appelle les belligérants à respecter le droit humanitaire international et à observer un cessez-le-feu de 3 jours afin de permettre la vaccination d'une population à l'agonie. Et depuis le 26 mars 2015, triste bilan, 10 000 morts, dont 9 500 civils, sans compter les 8 millions de yéménites plongés dans une situation de quasi-famine. Au Nicaragua, 317 morts en trois mois. C'est le triste bilan de la répression ordonnée par le président Daniel Ortega. Un bilan rendu public par la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Cette répression exercée par la police et les paramilitaires vise tous ceux qui ont manifesté contre le régime. Les manifestants sont désormais criminalisés par le gouvernement. Les arrestations se sont multipliées ces derniers jours. Et par crainte de représailles, des milliers de Nicaraguayens fuient au Costa Rica. Ce pays voisin a mis en place des mesures pour accueillir ces réfugiés. Apparemment, les persécutions ciblent les médecins qui ont porté secours aux manifestants pris sous les tirs de la police. Des membres du corps médical ont manifesté hier à Managua, la capitale du Nicaragua, pour dénoncer les vagues de licenciements à leur encontre. Reportage sur place d'Emmanuel Stills.
La police me cherche pour me tuer. La voix d'Eric Murillo, un médecin de la ville de Masaya, traduit l'angoisse et la peur d'être capturé par les forces de Daniel Ortega. Masaya était l'un des hauts lieux de la contestation populaire contre le président et tous ceux qui y ont participé vivent désormais cachés. C'est une véritable chasse aux sorcières, d'après ce médecin.
J'ai participé au secours lors des manifestations, dans les rues et dans les universités. Avec ma brigade médicale, nous avons soigné des blessés et évacué les morts. Et ça, pour la police, c'est du terrorisme. C'est un crime que de s'occuper des blessés. L'État nous persécute pour le simple fait d'avoir secouru la population.
Nous ne sommes pas des terroristes, c'était justement le cri des médecins et infirmiers qui ont protesté jeudi dans la capitale, Managua. Ils dénonçaient des dizaines de licenciements, mais aussi des arrestations et assassinats visant le personnel soignant. De son côté, Daniel Ortega a pour la première fois reconnu lors d'un entretien télévisé un nombre élevé de victimes. 195 morts dans ce qu'il décrit comme des affrontements, sans admettre sa responsabilité dans la répression des manifestations.
Reportage d'Emmanuel Stills pour France Culture à Managua. La Chine fait face à un nouveau scandale sur le fonctionnement de son industrie pharmaceutique. Il s'agit cette fois d'une molécule utilisée pour traiter l'hypertension artérielle qui a dû être retirée du marché dans le monde entier en raison des risques de cancer. C'est une erreur de manipulation qui serait à l'origine de cette situation. Sébastien Berriot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors on peut dire que c'est un scandale de plus dans le domaine de la santé dont la Chine se serait bien passée.
Oui, parce que la Chine a l'intention de faire de ce secteur de l'industrie pharmaceutique l'un des piliers de son économie, en produisant des médicaments pour le marché intérieur, mais aussi en travaillant à l'export. Un objectif qui est régulièrement freiné lorsque des scandales éclatent. On a eu en quelques jours deux exemples. D'abord celui des vaccins non conformes mis sur le marché chinois fin juillet. Et aujourd'hui, cette molécule cancérogène retirée des pharmacies partout dans le monde à cause d'une erreur dans la chaîne de fabrication. Le résultat, c'est que sur le plan intérieur, la population chinoise ne fait plus confiance aux médicaments qui sont produits dans le pays, et à l'export, même chose. Hier, par exemple, on a vu l'Agence européenne du médicament pointer du doigt la molécule chinoise. Catastrophique en termes d'image, comme nous l'explique Marie-Françoise Renard. Elle est professeure à l'université d'Auvergne et auteure d'un ouvrage, L'économie de la Chine, qui va paraître à la mi-août aux éditions de La Découverte.
Cela a un impact sur l'image de marque des produits chinois, indiscutablement. Or, cette image de marque, et ça, les autorités le savent très bien, déjà, elle n'est pas très bonne. Que ce soit en matière de produits pharmaceutiques, de tout ce qui concerne la santé, ou l'agroalimentaire. Et donc, si vous voulez, pour l'avenir, c'est quelque chose d'important. Cela, évidemment, pénalise les exportations, et cela conforte l'idée que les produits chinois ne seraient pas d'assez bonne qualité. Donc c'est très mauvais, les choses changent, et on voit très bien que dans beaucoup de domaines, il y a une amélioration de la qualité des produits, mais les failles du système chinois, ces points faibles, existent toujours, et on les sous-estime tout le temps.
Consciente du problème, les autorités chinoises affichent leur volonté de sévérité. Le président Xi Jinping est intervenu en personne il y a quelques jours pour dénoncer la mise sur le marché des vaccins non conformes. Mais cette sévérité a ses limites. Bon nombre de scandales sont liés à une corruption qui reste très implantée dans la société chinoise. L'industrie pharmaceutique risque encore d'en faire les frais.
Merci Sébastien Berriot pour cet éclairage. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui la fermeture de son hôpital de campagne situé sur le plateau du Golan, à la frontière avec la Syrie. Depuis sa création il y a un an, jour pour jour, cet hôpital a soigné des milliers de Syriens victimes du conflit entre Israël et la Syrie. Marie Semelin, notre correspondante à Jérusalem, nous explique les raisons de cette fermeture.
L'État hébreu a soigné près de 7000 Syriens, dont des combattants, certains dans cet hôpital de campagne, d'autres dans des hôpitaux israéliens, avec de discrètes exfiltrations et un retour en catimini en Syrie. Une action dans le cadre de l'opération Bon Voisin, établie pendant la guerre. Avec le retour de Bachar al-Assad à la frontière israélienne, le pays reconfigure son action dans ce conflit. Officiellement, Israël n'en est pas un acteur, mais agit pour préserver sa sécurité et soigner des blessés a permis, entre autres, d'améliorer l'image d'Israël auprès de ses Syriens, tout comme la distribution ponctuelle d'aide humanitaire. Du point de vue israélien, la situation est revenue à ce qu'elle était avant la guerre, c'est-à-dire un interlocuteur clair et une frontière a priori calme. Désormais, affirme Israël, pas de raison d'intervenir dans les affaires internes syriennes sous réserve de 3 conditions. Respecter la zone tampon entre les 2 pays, ne pas utiliser le sol syrien comme base opérationnelle pour l'Iran et ne pas y faire transiter d'armes à destination du Hezbollah libanais, auquel cas Israël se réserve le droit d'agir militairement sur ce sol, comme il le fait depuis le début de la guerre, en visant des cibles qui, selon l'armée, sont utilisées par les alliés de Bachar al-Assad, l'Iran ou des forces pro-iraniennes. Une action militaire pour l'instant tolérée par Moscou, allié du régime syrien et grand arbitre du conflit.
Marie Semelin, notre correspondante à Jérusalem. Les 42 Soudanais de l'Aquarius accueillis à Lille ont obtenu le statut de réfugiés. Cette décision de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, leur permettra d'obtenir une carte de résident pour 10 ans. Et cette décision a été prise dans un délai assez court puisqu'ils avaient été débarqués de l'Aquarius en juin dernier. Je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Henry, directeur de France Terre d'Asile, au micro d'Antoine Marette.
C'est conforme aux dernières orientations, c'est-à-dire en moins de 2 mois, les personnes ont le statut de réfugiés et vont pouvoir s'inventer une nouvelle vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Je ne serai jamais de ceux qui font la fine bouche sur l'arrivée de 42 personnes pour qui la situation n'est pas résolue, mais en tout cas est sur une bonne voie. Par contre, je continue à dire qu'il y a un véritable problème aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'accès à l'asile, au niveau du sauvetage en mer et au niveau de la solidarité nécessaire entre les différents pays européens. Il y a là un véritable désastre. Vous savez, on meurt beaucoup en Méditerranée, mais on meurt en silence parce qu'il n'y a plus de bateaux sur zone, parce que les médias s'y intéressent beaucoup moins. Et donc, il y a là un véritable sujet. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France devrait ouvrir un lieu sûr de débarquement. Marseille, par exemple, a toutes les infrastructures pour le faire. Et je pense que d'autres pays doivent évidemment également, sur la rive nord de la Méditerranée, le faire. Ensuite, il y a à dialoguer avec les pays du sud méditerranéen, en sachant que la plupart d'entre eux, même s'ils ont ratifié la Convention de Genève, n'ont pas de loi sur l'asile et ne veulent pas se voir évidemment imposer une charge supplémentaire au moment où l'Europe elle-même hésite à assumer ses responsabilités.
Pierre Henry, directeur de France Terre d'Asile, interrogé par Antoine Marette. Ce week-end, la vallée du Rhône s'apprête à faire face à un samedi classé noir dans le sens des départs, alors que les températures pourraient atteindre 40 degrés. La canicule est partout sur la route des vacances. Mieux vaut prendre des dispositions pour affronter à la fois des bouchons et la canicule. Sur l'autoroute A7, le reportage de Christophe Vincent, notre correspondant à Lyon.
Le jour le plus chargé de l'année sur l'A6 et l'A7, 36 degrés prévus à Mâcon et Lyon, 38 à Valence et Orange. Le préfet de région, Stéphane Bouillon, déconseille de partir demain et il donne ses consignes à ceux qui vont rouler.
Avoir des bouteilles d'eau, s'arrêter toutes les 2 heures, faire en sorte que le véhicule soit en bon état et ne tombe pas en panne. Ce sont des règles de conduite classiques, mais qui, sous la canicule et dans ces circonstances, doivent être rappelées. Si jamais il y a trop de bouchons, les autoroutes sont autorisées à baisser la vitesse de 20 km/h pour assurer une meilleure fluidité sur la route et nous serons évidemment très attentif à cela.
Grosse affluence en vue sur les aires de la 7 à la station Avia de Cérézin. Bilal et Sabine ont tout prévu.
Le matin, des cafés surtout, le soir, des grills, toute la journée à boire. Ouais.
On a commandé beaucoup d'eau pour être sûr de ne pas avoir de problème de stock. Les commandes explosent, comme la clientèle. On a une salle pour pouvoir longer les enfants, les changer. Quand ils ont beaucoup roulé, on a un siège relaxant qui masse, on est serein.
Après tout, c'est les vacances.
De son côté, Météo France a placé la Charente-Maritime en vigilance orange à la canicule. Cela porte à 67 le nombre de départements placés en vigilance orange. Le record du 21 juin 2017 est aujourd'hui égalé. Les températures maximales sont comprises entre 35 et 40 degrés dans les régions PACA, Occitanie, Bourgogne, Grand Est et Île-de-France notamment. Si les prévisionnistes annoncent un léger fléchissement pour ce week-end sur le nord, les températures caniculaires devraient se poursuivre jusqu'à mercredi prochain. Seule la partie nord-ouest de l'Hexagone sera épargnée par cette alerte. Voilà, fin de ce journal préparé avec Mathilde Julien. Prochaine édition à 22h, présentée par Benoît Bouscarel. Très belle soirée, très beau week-end.